16 au 21 décembre a lieu la 8e édition du festival Nuit d'hiver, un festival porté par le Grimm et destiné à accueillir sous de multiples formes les musiques improvisées. Sous l'intitulé Baroque avec un K, croisement entre rock et baroque, une programmation qui a démarré en fait le 8 décembre avec un concert liminaire de l'ensemble Sébaré. Jean-Marc Montera, bonjour.
Bonjour.
Deux mots d'excuse tout d'abord aux auditeurs. On avait prévu d'organiser une session d'improvisation guitare et clavicorde avec toi, Jean-Marc, et puis Freddy Eschelberger, spécialement pour les auditeurs de Grenouille. Mais les aléas des transports aériens ont empêché que cet enregistrement ait lieu en temps et en heure. Mais on pourra quand même entendre au cours de cet entretien quelques extraits sonores de la programmation de Nuit d'hiver 8, et ça vous donne une raison supplémentaire de vous précipiter au concert proposé. Revenons justement à cette programmation, si tu veux bien. Des préludes non mesurés de Couperin à Smell Like a Teen Spirit de Nirvana, rock et baroque, deux moments de l'histoire de la musique séparés par au moins trois siècles. Alors comment est-ce que tu les fais se rejoindre? Est-ce que c'est par la part d'improvisation qui est un peu inhérente à ces deux formes musicales?
Oui, tout d'abord une petite précision. C'est pas si la programmation n'est pas bâtie systématiquement sur le parallèle rock et baroque. Alors c'est effectivement le titre peut prêter à confusion parce que dans baroque tel qu'on l'a écrit avec un K sans le C, ça peut laisser entendre qu'il y a un parallèle systématique entre deux formes musicales précises. C'est pas vraiment le cas. Ce qu'on a voulu mettre en relief, c'est et ça tient dans le sous-titre hein, du festival, les formes de l'improvisé. Ce qu'on a voulu mettre en relief, c'est la parenté qu'il y a dans le rapport à la musique, dans le rapport au son, dans le rapport au geste musical, qu'il peut y avoir par les musiciens baroques et musique ancienne, et les musiciens de musique expérimentale et musique improvisée. Et rock aussi, mais c'est pas uniquement ça.
En tout cas, si on revient un petit peu en arrière, le grand comeback de la musique baroque, c'était dans les années 80, avec une génération d'interprètes, on les appelait les baroqueux, Cordan Boyau, fréquence du la à 392 Hz, un peu pointilleux, un peu intégriste parfois. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération de musiciens qui prend ses distances avec cette espèce de vérisme historique, comme Freddy Eschelberger, par exemple, avec qui tu vas proposer une partie de cette programmation, avec qui tu vas jouer sans doute aussi. Freddy Eschelberger qui va jouer en impro, en tout cas avec Michel Godard et Patrice Héral, ce sera à l'Embobineuse le 17 décembre. Alors une nouvelle génération de musiciens pour une approche du baroque et une confluence entre baroque et musique improvisée.
Oui, c'est exactement ça, c'est sur ce point-là que j'ai envie de mettre l'accent, parce que effectivement, il y a eu dans la phase de renouveau hein, une petite période d'intégrisme qui, je crois, était nécessaire. Hein, c'est tous les mouvements qui essaient de s'affirmer ou de remonter sur le devant de la scène pour avoir une revendication idéologique. C'était le MLF dans les années 68, ou les Corses, ou les Basques, ou les Bretons. Il y a un moment où on n'est obligatoirement pas très intelligent, mais ça passe vite. Parce qu'il faut en fait réaffirmer quelque chose. Et effectivement, maintenant, les ensembles tels que celui d'Hervé Niquet, les concerts spirituels ou les ensembles dans lesquels joue William Dongois ou Jean-Marc Hems à Marseille, effectivement, ils jouent avec du boyau, ils jouent avec un diapason qui est aussi entre 415 et 465 selon les musiques, et ils sont hyper exigeants. Ils sont hyper exigeants, comme pouvait l'être Derek Bailey ou Evan Parker sur le choix d'une hanche ou sur la façon de prendre le son de la guitare électrique ou acoustique dans une situation d'improvisation totale. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est ça qui me fait dire qu'il y a une vraie parenté entre ces formes de musique et ses musiciens. C'est plus le rapport des musiciens à la musique que la musique elle-même. Parce que c'est vrai qu'entre Derek Bailey et Monteverdi, il n'y a pas vraiment de lien direct d'un point de vue harmonique.
C'est pas tant la forme musicale qui compte là que l'attitude des musiciens, l'ouverture d'esprit des musiciens.
Oui, c'est ça. C'est une espèce de posture humaine, physique, face à l'instrument, hein, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Je veux dire, le choix de la corde en boyau ou de faire un concert avec un clavecin plutôt qu'un synthé, c'est un choix esthétique, un choix philosophique. Et il y a aussi une posture musicale face au son qui nous entoure. Et les baroqueux, comme tu dis, disais tout à l'heure, s'intéressent autant au son que les musiciens de musique expérimentale ou de recherche peuvent le faire.
Programmation pour cette 8e édition de Nuit d'hiver qui fait la part belle aux découvertes avec des artistes qu'on voit peu à Marseille. Un éventail d'ailleurs de sonorités assez large, de la guitare acoustique de l'Ocelmar, alias Thomas Bonvalet, c'est le 17, Alan Bob, aux éruptions électroniques des New Yorkais de Borbeto Magus, pionnier de la noise music, c'était il y a plus de 30 ans je crois, c'est toujours le 17 décembre et on les recevra d'ailleurs probablement dans le 5 à 7 sur les 3-8. Un champ musical très large donc pour cette programmation, Jean-Marc, du point de vue de ses sonorités.
Oui, c'est pour ça que on peut dire que le titre et le sous-titre sont pas totalement respectés, mais bon, hein, les cadres sont là pour être débordés. Hein, par exemple, la pièce de Maurizio Kagel n'a pas grand-chose à voir avec le baroque, et bon, peut-être à savoir un petit peu avec le rock maintenant, puisque je joue dedans, mais au départ, non. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Là, dans ce type de programmation, c'est effectivement la confrontation des objets musicaux et voir comment ça sonne quand on les met à côté. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire jouer Freddy Elchelberger avec Borbeto Magus. On ne crée pas d'orchestre hybride. comme ça. S'ils décident de le faire un de ce jour, ça sera avec plaisir. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse de mettre en relief, c'est de montrer où se passe la contagion, quoi. Et c'est cet endroit-là qui est passionnant, parce que il interpelle directement le musicien et nous-mêmes, mais aussi le spectateur sur et l'auditeur sur l'endroit où se passe la musique. Et du coup, on a même essayé de détourner les problèmes qu'on a en ce moment à Montevideo du fait qu'on ne peut plus accueillir du public chez nous. Dans la délocalisation de la programmation, on a essayé de programmer les concerts dans des lieux qui ont à voir avec la programmation de ces lieux, de près ou de loin.
Hein. Et qui proposent des acoustiques justement très différentes les uns et les autres, des ambiances très différentes pour ces concerts.
Oui, des acoustiques et aussi des philosophies de programmation. Hein. On a essayé de faire en sorte que ce qu'on propose à la minoterie, ça rentre dans le cadre de la minoterie habituelle. Hein. Donc le théâtre musical, Mauricio Kagel et le trio de Bar Phillips avec Urslein Gruber et Jacques Demierre. Ça tombe un peu sous le sens. La programmation de l'embobineuse, on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Borbeto Magus, le trio de Freddy et l'Ocelmar, avec Thomas Anker-Smith. Ça aurait pu être une programmation de l'embobineuse. Et ce qui va se passer au cabaret aléatoire, de même. Donc on est dans notre malheur, on a eu un petit peu de chance. Et sans parler à Courroie ou à Avignon, qui est le temple hein, de la musique baroque, qui a déjà une programmation depuis plusieurs années, et où le trio de William Dongois et les Witches trouvent leur place de manière presque trop évidente.
Si tu veux bien, sur Montevideo et la situation du lieu. Revenons un petit peu sur Nuit d'hiver, huitième du nom. Musique instrumentale, mais aussi vocale pour cette programmation. Une trahison orale de Mauricio Kagel, que tu évoquais à l'instant, c'est le 16 décembre et c'est à la Minoterie. Le projet Cartouche de Natacha Muslera et Eric M, c'est au cabaret aléatoire et c'est le 18. Et puis un concert en hommage à Daniel Charles. Le temps de la voix, c'est au musée d'archéologie le 17 et c'est précédé d'un colloque international au CIPM. Peut-être deux mots sur Daniel Charles et l'utopie en musicologie.
Alors Daniel Charles est un musicologue qu'on aime beaucoup au Grimm, hein, qu'on a invité deux, trois fois par le passé. Là, cette collaboration en fait se fait avec le département de musicologie d'Aix-en-Provence. C'est un colloque qui est organisé par Christine Esclapez et Jean-Marie Jaconot autour de l'utopie. C'est un hommage à Daniel Charles. Et effectivement, il va y avoir un concert performance d'une vingtaine de minutes de Simon Ziegler, hein, qui est un tromboniste, chanteur, musicien, étudiante de l'université, sur des propositions vidéo de Michel Ricosi. Donc ça, ça va se passer effectivement au musée d'archéologie, qui est un de nos partenaires secourants. Et l'hommage à Daniel Charles, moi je trouve que ça s'inscrit totalement dans cette thématique. Mais je pense que si la thématique avait été différente, ça se serait inscrit de la même manière, avec autant d'évidence, parce que c'est quelqu'un qui était dont la pensée était tellement large, tellement ouverte sur non seulement sur le monde de la musique, sur le monde du son, mais sur le monde tout court, qu'il aurait trouvé sa place dans n'importe quel type de thématique. Et on tenait, comme le GRIM est vraiment partenaire du département de musicologie au travers du Festival d'architecture contemporaine, on tenait à ce que cette collaboration s'inscrive dans le Festival Nuit d'hiver pour signifier une fois de plus notre attachement aux travaux et à la pensée de Daniel Charles.
Daniel Charles, musicologue, philosophe aussi, donc l'utopie et musicologie, on pourrait presque dire uchronie au lieu de utopie. Un de ses propos était justement de dire que l'avant-garde ne reniait pas du tout les formes du passé et qu'au contraire, il constatait que ce qui était le plus bloquant finalement en musique, c'était d'être en permanence collé à ce présent qui est plutôt un phénomène de mode. Tu rejoins cet état d'esprit ?
Oui, la programmation de Nuit d'hiver dit la même chose. En lisant le programme, c'est un petit peu ça qu'il faut entendre. Effectivement, ce qui est important dans le présent, c'est qu'il faut le vivre à fond. Il faut pas le subir. Et la manière de ne pas le subir, c'est d'avoir une conscience exacerbée du passé. C'est l'histoire qui nous permet d'être à fond dans le présent.
Programmation musicale dans ce festival, mais aussi croisement du visuel et du sonore avec les gramophones préparés de Cyril Flamand, ça c'est le 18 et c'est à l'Histoire de l'œil, ou bien l'exposition patholithique d'Eric M, c'est à la Galerie OU. Des pièces présentées dans le cadre d'une programmation ou sous-programmation qui s'appelle Du point de vue du son, troisième du nom. Tu nous en dis un peu plus de ce point de vue ?
Le point de vue du son, c'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil aux formes contemporaines de l'art qui consistait essentiellement à utiliser du son dans des installations ou dans des objets vidéo de gens qui sont issus des arts plastiques. Et j'ai eu envie de donner le spot, la parole à des musiciens qui travaille la vidéo, c'est-à-dire de juste inverser le point de vue. Donc on a eu Mike Cooper qui a ouvert la session, ensuite Elio Martuchel, Eric M, le musicien vidéaste qui entame la troisième session. Et Eric M est un artiste marseillais que j'aime beaucoup, dont je défends le travail, que j'apprécie énormément, et en tant que musicien et en tant que personne. Donc des fois, c'est pas vraiment la peine d'aller chercher bien loin, quoi.
impossible de détailler l'ensemble de cette programmation, de même que les horaires et les lieux. On rappellera tout à l'heure l'adresse du site où on peut trouver toutes ces infos. Mais sur les lieux du festival, difficile de ne pas évoquer les raisons d'une programmation éclatée dans la ville. Tu as commencé tout à l'heure à en parler. Ce n'est pas tellement un choix qu'une situation subie, celle de Montevideo, privée d'accès au public depuis quelques temps. Est-ce que c'est l'avenir du Grimm qui est en jeu ?
C'est l'avenir de Montevideo hein, qui est en jeu. Parce que depuis maintenant 11 ans... L'avenir de diphtongue, actoral, le Grimm sont complètement liés à cet objet atypique dans le paysage artistique français international qu'est Montevideo. Donc je ne me pose pas la question en tant que Grimm ou en tant que structure actorale ou diphtongue. Avec Hubert, on est vraiment on se pose notre question principale, c'est quid de Montevideo, parce qu'on a fait cet objet là il y a 11 ans. En quelques années, on lui a donné une image et une notoriété qui est considérable dans nos secteurs sur le plan national et international. Et l'objectif, c'est de préserver cet outil, tant pour continuer le travail qu'on a commencé, parce que bon, on estime qu'on n'a pas terminé, et pour permettre aux artistes qu'on avait l'intention d'accueillir de continuer à travailler, à s'épanouir et à montrer leur travail dans cette structure. Donc après, pour on a réussi à faire actoral de justesse. On est fermé depuis le 14 octobre, et du 14 octobre au 21 décembre, on a strictement rien annulé de notre programmation, tant sur les écritures que sur la musique. Donc ça, c'est pour mettre un petit peu l'accent sur l'élan de solidarité qu'il y a eu aussi de la part des partenaires culturels à Marseille et en région. Qui nous ont spontanément proposé une aide ou signifié leur soutien, même s'ils ne pouvaient pas matériellement nous aider dans de l'accueil ou autre. Et je tiens là à remercier non seulement tous ceux qui nous accueillent, parce qu'effectivement ceux qui sont sur le programme, la minoterie, l'embobineuse, le cabaret aléatoire, le cinéma des variétés, le CIPM, la musée d'archéologie, la galerie Où, etc. La Courroie à Avignon sont les lieux où le festival se déroule, mais il y a aussi énormément de structures comme Seconde Nature, l'AMI, le GMEM, qui nous ont signifié leur soutien. Mais bon, on n'allait pas augmenter la programmation pour pouvoir faire le festival dans tous les lieux qui ont proposé de nous aider. C'était pas possible.
Est-ce que, à l'instar du Merlan il y a quelques années, vous avancez donc vers une période qui pourrait être une période de vagabondage, de programmation hors les murs, en attendant que cette situation se résolve ?
Oui, moi ça me fait pas peur, hein, parce que le Grimm existe depuis 78 et on a eu notre premier lieu en 99, c'était ici. Donc on a eu presque 20 ans de nomadisme, donc on sait faire. Hein. De ce point de vue-là, je ne suis pas particulièrement inquiet. Ce qui me préoccupe plutôt, c'est à l'aube de Marseille 2013, de ne plus avoir un outil qui est cette empreinte-là qu'on a donnée avec Hubert, qui est vraiment celle de Montevideo. On tient absolument à maintenir cet outil en vie.
Concrètement, si Nuit d'hiver est le rendez-vous traditionnel que le Grimm lance pour la fin de l'année, pour le mois de décembre, le grand rendez-vous du printemps, c'est Son de Plateau. Est-ce qu'au printemps, on va voir une édition de Son de Plateau ?
Ben, j'espère. Pour le moment, on ne se prononce pas trop, parce que on sait que ça ne pourra pas se faire ici, c'est clair. Oui, ça sera peut-être l'occasion justement de répondre à tous ceux avec qui on n'a pas travaillé sur Nuit d'hiver, de voir avec eux s'il n'y a pas quelque chose à faire dans le cadre de Son de Plateau avec les autres structures. Mais j'avoue que pour le moment, on n'y a pas vraiment réfléchi. Parce que d'autant plus que depuis l'année dernière, avec Hubert, on avait décidé de faire son de plateau ensemble. C'était plus uniquement un projet porté par le Grimm, mais c'était un projet porté par Hubert et moi. On n'a pas vraiment décidé encore quel serait l'avenir de son de plateau, en tout cas pour 2011, parce qu'on se concentre maintenant énormément sur les travaux de Montevideo.
En attendant, on n'est pas encore en 2011, on est en 2010 et c'est le temps d'assister à la 8e édition de Nuit d'hiver, concerts, expos, projections, conférences, pour se tenir au chaud les uns à côté des autres, aux côtés des autres. C'est du 16 au 21 décembre. Tout le détail de la programmation, les lieux et les horaires, c'est www.grimm-marseille.com. Merci Jean-Marc Montera.
Merci.